20h02 sur Radio G. Tout de suite, c'est l'occasion de retrouver votre émission sportive de la grille. Tout de suite, c'est Génération Sport. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler de toute l'actualité sportive locale et internationale. Très ravi de vous retrouver avec une équipe qui change un petit peu chaque semaine. Pas de Cédric une nouvelle fois cette semaine. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. On espère qu'il se porte bien. On espère qu'il n'a pas démissionné de l'équipe. Également Mathéo qui avait fait sa première la dernière fois n'est pas là non plus. Mais les deux habitués, bon, j'ai l'impression que vous n'avez raté aucune émission cette année. Clément et Faustin sont avec nous. Salut, je commence par Faustin. Salut Faustin, comment ça va?
Salut Alex, salut tout le monde. Bah, ça va toujours très bien. Toujours ravi de revenir chaque mardi pour une nouvelle émission de Génération Sport.
C'est bien passé la semaine dernière?
Ouais, très bien. Avec Mathéo, justement, qui nous a sauvé, parce qu'on se serait retrouvé à deux avec Clément.
Ça permettait d'avoir plus de discussions, évidemment.
Exactement, parce qu'en plus, on a dû meubler pas mal la semaine dernière, donc ça nous a sauvé.
Clément est avec nous également. Salut Clément, comment ça va?
Salut Alex, salut à tous. Ça va très bien. Oui, effectivement, la semaine dernière, on a dû un peu meubler parce que il n'y avait pas beaucoup d'informations et là, il y a un peu plus d'actualité, j'ai l'impression. Donc, on va décrypter tout ça, quoi.
Et vous avez un peu brodé sur les Jeux Olympiques, notamment,
ouais,
sur la fin. Et ça va être un thème qu'on va évoquer, notamment sur cette émission, avec un autre angle qui fait l'actualité récemment. Avant de vous en dire plus sur le sommaire de l'émission, je vais présenter la quatrième personne qui est avec nous. Un revenant, j'ai envie de dire.
Et oui,
il est de retour. C'est Max, vous le connaissez bien pour les plus fidèles de l'émission, qui est de retour occasionnellement, donc ici sur Angers. Salut Max, comment ça va?
Salut Alex, bonjour à tous. Ça va très bien, très bizarre de revenir ici, mais toujours un plaisir.
Ça t'évoque des bons souvenirs?
Que des bons souvenirs, que des bons.
Évidemment, que des bons. On rappelle, du coup, maintenant, t'as pris en galon. Tu es désormais alternant journaliste à Radio France.
C'est ça.
Pour l'instant à Paris, après tu retournes vers Mont-Marsan, c'est ça?
Je retourne dans mon sud-ouest après.
C'est ça.
Après avoir travaillé à France Info, on retourne en France Bleu, ça va nous faire du bien.
Ça va te faire du bien, effectivement. Voilà un petit peu pour les chroniqueurs autour de la table. Au programme de l'émission, c'est assez chargé. Je ne sais pas si tout va rentrer, mais on va essayer de faire au mieux. Il y a beaucoup d'actualités. Au niveau local, on va revenir sur le SCO, puisqu'il y a pas mal d'actu autour, notamment, je ne sais pas si vous l'avez évoqué, les gars, sur les déboires judiciaires, oui, de notre cher, enfin non, je veux pas dire ça, mais
ça commence bien, dis
donc, du propriétaire du SCO d'Angers, donc Saïd Chaban. Je sais pas si du coup vous l'avez pas évoqué.
Non,
je vais revenir rapidement là-dessus, et puis on reviendra aussi sur le sportif avec la victoire de ce week-end et sur le match qui aura lieu ce samedi à 19h à Raymond Coppa. L'événement, j'ai envie de dire, du week-end, même si on va le voir, il y a un autre événement qui va se passer à quelques mètres. Et Faustin, je crois que d'ailleurs que tu seras au match.
Oui, à Raymond Coppa, exactement.
C'est ça. Comme à l'aller, finalement.
Ouais, j'étais dans le parcage à l'aller, là je serai dans le cop au retour.
Oh là là, magnifique.
Ouais, un vrai supporter.
J'espère du côté en juin.
Ah bah évidemment.
Attention, pas de trahison.
Non.
On va revenir également sur les autres résultats du week-end, avec le SCO en balle notamment, d'autres infos notamment qui concernent les Ducs d'Angers, mais pas forcément l'équipe première. Faustin, tu nous parleras donc de basket, et donc je le disais, ce sera aussi un grand rendez-vous donc ce week-end pour l'UFAB.
Exactement.
Qui va donc recevoir
Tarbes,
c'est ça, Tarbes à domicile. C'est en même temps. Un peu particulier, ouais. Mais ce sera en même temps que le match, le derby à Raymond Coppa.
Une heure de décalage, il me semble.
Ouais, même, je crois qu'il y a même qu'une demi-heure entre le début des deux matchs, donc c'est assez particulier. Mais voilà, en tout cas, tu en parleras, mais les Angevines qui doivent absolument gagner pour aller en play-off. Au niveau international, on fera une bonne page football avec les résultats de Ligue 1, parler un petit peu également des demi-finales de Coupe de France qui ont lieu ce soir et demain, revenir aussi sur le Classico qui s'est passé entre l'Olympique de Marseille et le PSG, et pourquoi pas aussi dévier sur la future rencontre du Paris Saint-Germain contre le Barça. Et puis évidemment les infos, le rugby avec Clément, tu nous parleras des résultats de top 14, le judo, le cyclisme et également évidemment Faustin, tu nous parleras de basket. Voilà pour ce programme très très chargé. Ben écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder avec le SCO qui s'est imposé donc ce week-end 4-2 sur j'ai pas envie de dire la pelouse de Concarneau puisque Concarneau n'a pas de stade malheureusement pour jouer en Ligue 2. Ils se sont rendus donc les Angevins à Francis Leblay à Brest et ils se sont imposés donc 4-2 après avoir été menés 2-0 à la mi-temps. C'était Moisan et Rodriguez qui avaient ouvert le score pour les Bretons et enfin c'est Diony, El Melali, Le Paul et de nouveau Diony qui ont permis au SCO de l'emporter une fois de plus donc contre Concarneau. Alors on peut relever notamment une certaine fébrilité défensive hein, en première mi-temps sur les deux buts, des erreurs qu'on n'avait pas vues depuis longtemps du côté du SCO, qui rappellent un peu les mauvais souvenirs de l'année dernière. Mais à noter aussi surtout l'entrée de, encore une fois, Le Paul qui a fait une très très bonne entrée, la recrue en provenance d'Espinal qui est rentré à la pause et qui a fait beaucoup de bien, passeur, buteur, voilà, et qui a permis donc au SCO sûrement de décrocher ce nouveau succès. Au niveau du classement, donc Saint-Étienne reste à 2 points derrière, eux qui ont battu Valenciennes. Auxerre a également gagné et donc conserve 5 points d'avance sur les Angevins. Et même écart du coup entre Angers et Laval, avec Laval qui est donc juste derrière et qui a perdu à domicile contre Bastia 2-1. Et donc voilà, on le disait, c'est le prochain match hyper important, notamment sur la, évidemment, la suprématie locale, on va dire, sur l'enjeu du derby. Et puis, évidemment, en termes de points, ça peut permettre de créer un très bon écart de 8 points qui pourrait être, j'ai même envie de dire, définitif, vis-à-vis, en tout cas, des Lavallois. Peut-être pas forcément de Saint-Étienne, mais en tout cas, des Lavallois, ça pourrait faire un bon écart. Messieurs, est-ce que vous pensez que c'est un tournant de cette saison, je pense,
le match contre
contre Laval.
Ah, contre Laval, bah oui, clairement c'est peut-être le match important de la fin de saison parce que c'est le rival direct, c'est le derby, on a perdu à l'aller 1-0 pour le premier match de la saison, donc il y a une soif de revanche et peut-être que une défaite pourrait plomber un peu les morales des joueurs alors qu'au contraire une victoire ça lancerait une super dynamique et même un terrible engouement, je pense dans la ville d'Angers pour soutenir l'équipe pour une remontée en Ligue 1.
Apparemment, il y a déjà 15 000 personnes qui sont prévues pour le match. Clément, qu'est-ce que tu en penses ?
Je pense qu'il faut gagner ce match parce que Saint-Étienne, je les vois vraiment. Là, s'ils continuent comme ça, je pense qu'ils peuvent finir premier. Sincèrement, je sais pas combien ils sont sur combien de matchs sans défaite, mais ça commence à leur faire une bonne deuxième partie de saison et le SCO, oui, faut qu'il gagne ce match et rien que, comme il dit Faustin, pour l'engouement que la ville va porter pour cette équipe, je pense que ça va être ça pourrait être une très belle image.
Max, est-ce que t'as un peu suivi le SCO de là où tu es?
Ouais, alors un peu de loin, peut-être que je vais voir si je peux aller au match ce week-end, mais le match contre Laval va surtout être important pour le SCO. Si Angers perd, Angers dit quasiment adieu au titre. Je sais pas, il y a combien de points d'écart entre Sainté et le SCO. Il y a combien de points d'écart.
Le SCO a 2 points d'avance sur Saint-Étienne.
Ah non, sur Auxerre, pardon.
Oui, sur Auxerre.
Oui, Auxerre est bon leader, on est d'accord.
C'est ça. Cinq points d'avance.
Ouais, voilà. Donc si Angers perd et que derrière Auxerre gagne, c'est quasi sûr que Angers peut dire voilà. Mais oui, faut gagner absolument parce que là les derniers résultats, pareil, j'ai suivi de loin, mais ça perd contre Saint-Étienne justement il y a pas longtemps. Contre Caen.
Contre Amiens,
contre Caen. Entre deux, il y a un nul ou je sais plus quoi.
On en parlait, mais l'année 2024 est assez moyenne. On va dire.
Voilà, donc il y a eu une bonne première partie de saison depuis 2024, depuis le départ notamment de l'ami Baoya. Il me semble que c'est un peu terrible. Donc oui, cette victoire, elle est impérative. Et surtout pour pas que Laval revienne sur le SCO et sur Saint-Étienne.
Oui, parce qu'on imagine le scénario dans lequel le SCO gagne et a 8 points d'avance, mais Laval peut revenir à 2 points.
Voilà.
Se faire dépasser par Saint-Étienne, ça peut aussi être une opération catastrophe, en cas de défaite des Angevins. On suivra ça. Faustin, tu nous feras un petit résumé du match.
Le reporter.
Exactement. Sinon, dans l'actualité du SCO, on le disait un petit peu en introduction, Saïd Chaban, le propriétaire et ex-président du club, a été condamné à 2 ans de prison, et dont 1 avec sursis pour agression sexuelle aggravée. Et juste après cette condamnation, 18 mois de prison ont été requis par le parquet pour blanchiment notamment dans l'affaire des faux agents qui le lie donc à plusieurs autres individus. Voilà pour le petit point Chaban. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une influence sur le club?
Non, je pense pas honnêtement. Ça fait un certain temps qu'on sait qu'il y a des magouilles qui devaient être jugées. Et le verdict n'était pas était attendu finalement. Donc ça n'a pas dû trop chambouler les joueurs.
Et puis limite, j'ai envie de dire,
c'était attendu.
C'est une habitude aussi de, enfin,
de tous les de ouais, tous les clubs.
Non, non, mais enfin, pour le SCO d'avoir beaucoup de procès.
Ah oui, oui.
Moi, j'ai compté, je me suis amusé à compter tous les procès et les affaires qu'il y a depuis ne serait-ce que 4-5 ans. C'est assez hallucinant. Il y a les affaires avec les anciens salariés du club. Oui. Donc on a Piqueux, on a Baticle qui a été débouté récemment. On a Check and Doy.
Mélali aussi.
Alors après voilà, il y a les affaires sur les joueurs eux-mêmes. Donc avait Mélali qui avait été condamné pour exhibitionnisme.
Oui.
Ilyes Chetti pour agression sexuelle dans une boîte à Angers. On a eu également 2 suspensions qui ont été toutes les 2 levées pour interdiction de recrutement pour des fraudes encore une fois de transfert, et 2 procès pour notre propriétaire donc Saïd Chaban. Donc j'ai envie de dire, on est habitué.
Voilà.
Malheureusement, on est un petit peu habitué à voir toutes ces affaires autour des Angevins. On va repartir maintenant sur un autre club donc du SCO, c'est le SCO Handball qui s'est lourdement incliné à Frontignan 44 à 32. Alors il faut savoir que donc il y a toujours statu quo hein, dans le duel à distance avec Caen quant à cette dernière place qui est donc relégable pour la Nationale 1. Et le prochain match donc est à suivre le vendredi 5 avril à domicile contre Istres qui est actuellement 3e du championnat. Donc voilà, à savoir que les Angevins vont affronter directement Caen à domicile dans à peu près 3 semaines. Donc voilà, un match hyper important.
Mais ils ont pas fait nul la semaine dernière le SCO?
Bah c'était la semaine dernière,
oui. Ah oui,
j'espère que tu en as parlé.
J'en ai parlé. Non mais c'est parce que ils sont revenus à égalité quand la semaine dernière, parce que
non, statu quo, ça ne veut pas dire ex aequo. Statu quo, ça n'a pas bougé.
Ah, okay,
le SCO a toujours un point d'avance sur Caen qui est
qui
a cette place de relégable. Faustin, tu vas nous parler basket avec pas mal de résultats de nos clubs évidemment locaux. Par qui tu vas commencer?
Je vais commencer par l'EAB. J'ai envie de dire le moins bon des 3 clubs du département, pardon. Ils ont concédé donc une nouvelle défaite face à Vichy sur le score de 78 à 67. C'est dommage, sachant que les Angevins étaient devant à la mi-temps et à 7 matchs de la fin du championnat. Le maintien semble de plus en plus compliqué du côté du club de l'Étoile qui est encore bon dernier. Ils jouent cependant leur prochain match vendredi contre Denain à Jambouin. Du côté de l'UFAB, elles ont perdu elles aussi sur le score de 78 à 69. C'était contre Charleville, une victoire qui aurait permis à l'UFAB de s'assurer la qualification pour les playoffs. Mais désormais, elles sont donc 8e à ex-aequo avec Charleville, mais elles sont 8e et pas 9e grâce à la différence de points. Une victoire samedi contre Tarbes pour le dernier match de la saison régulière leur assurerait une qualification en play-off, sachant que Tarbes est 7e, donc c'est un match tout à fait prenable. Mais en cas de défaite, il faudrait aussi espérer que Charleville perde contre Roche-Vendée. Exactement. Roche-Vendée qui est avant-dernier du classement. Et donc une victoire qui se profile sur le papier pour Charleville. La victoire semble donc une option pas négligeable pour assurer les playoffs et ne pas aller en play-down.
Et donc on le disait, horaire un peu spécial puisque donc le match aura lieu à Jambouin, juste à côté de Raymond Coppa. Il commencera à 18h30 alors que le derby où on attend beaucoup de monde commencera à 19h.
Ouais, ce sera assez particulier de voir autant de monde autour des deux installations. Je sais pas quand ça va être géré.
Au niveau de la sécurité, que normalement c'est des choses qui sont prévues à l'avance. surtout dans des sites aussi proches, bah en fait les sorties voilà se touchent, hein, j'ai envie de dire.
Oui, clairement.
Donc voilà, ça va être intéressant de voir ça.
Je pourrais vous en parler.
Exactement. Mais passe une tête à l'UFAB, hein, évidemment.
Ouais, bah, faudrait que j'arrive en avance.
Exactement.
Voilà, du coup, pour ce qui est de l'UFAB.
Et Cholet.
Et Cholet du coup qui a gagné 85 à 77 contre Nancy, c'est une victoire qui leur permet de se rapprocher du top 5 en étant plus qu'à 2 victoires d'écart avec Nanterre. Prochain match samedi contre Gravelines Dunkerque.
Très bien, bah merci beaucoup Faustin pour ce petit point basket dont on disait victoire primordiale, j'ai envie de dire obligatoire,
ouais, obligatoire pour
l'UFAB contre Tarbes ce week-end. Deux autres petites infos locales avec notamment les Ducs d'Angers. Et oui, même si la saison est terminée pour les professionnels, d'ailleurs pas forcément puisqu'il y a encore trois joueurs qui ont été convoqués en équipe de France, à savoir que les U20 ont été sacrés champions de France de hockey sur glace. L'équipe donc de l'AHCA, je sais pas comment ça se prononce, AK sûrement, s'est imposé en finale contre les Rapaces de Gap, 3-1 puis 4-3. Voilà pour les Ducs d'Angers. Max, toi qui suivais à ton époque assidûment les Ducs d'Angers, un peu déçu de cette élimination.
Alors j'avoue que je suis plus du tout les Ducs, mais c'est comme chaque année pareil, hein, en Ligue Magnus, ça se fait. Donc du coup, on s'est fait éliminer en quart.
Donc là, c'était direct premier tour ou quart de finale.
Oui, bon bah.
Alors qu'on était habitué aux demi-finales.
Oui, au moins aux demi-finales.
Et qu'on a fini deuxième.
Et chaque année, je crois, on finit deuxième, troisième. Il y a toujours Rouen ou Grenoble en
devant. Et là, c'était Cergy Pontoise, donc.
C'était Cergy. Ouais, je suis allé voir un match à Cergy il y a pas longtemps, mais normalement le SCO se fait éliminer contre meilleur. Je suis perdu. Voilà.
c'est l'erreur que je fais toujours aussi.
Mais ouais, d'habitude les Ducs perdent soit en play-off contre Grenoble ou Rouen. Et bon
on disait c'était la première fois depuis 2020, je crois, ou 2019
que quand même
que les Ducs n'avaient pas perdu au premier tour des play-offs. Donc voilà.
Et en Coupe de France, ça donne quoi?
Ils ont été sortis très rapidement
contre Dunkerque,
contre une équipe de D1.
Waouh, une belle année.
Une belle année pour les Ducs. En saison régulière, tout allait bien. Patatras. Donc voilà, il y a certains changements qui vont être peut-être opérés. On rappelle qu'il y a eu un changement de présidence il y a pas longtemps, l'année dernière justement. Donc voilà, peut-être qu'on recevra aussi le PEC pour avoir des infos. Là-dessus. Dernière info locale avec le début. Et oui, on va parler cyclisme. Avec le début aujourd'hui même du Pays de la Loire Tour. Et oui, il me semble qu'on en avait parlé l'année dernière. C'est aujourd'hui donc Marine van Den Berg qui a gagné le Néerlandais lors de la première étape qui se déroulait en Vendée et demain donc passage dans le Maine-et-Loire avec une étape qui commence à Châteaubriant qui se termine à Saumur et le lendemain donc jeudi a priori on devrait avoir une étape entre Segré et Château-Gontier. Voilà un petit peu pour cette info cyclisme et donc dans l'étape du jour pas de Français hein, dans le top 5 de l'étape.
Il y a Brian Cocard qui a fini quatrième
aujourd'hui.
Oui,
je vois Samuel Watson sur mon mon info.
Attention monsieur, hein.
attention.
Ah bon, je sais pas alors.
Non, ça doit pas être le bon truc. Parce qu'il y a une autre, parce qu'en fait c'est pas forcément le tour le plus hype du moment.
Ben non.
Brian Cocard.
Je te l'apprends pas. Non, ça c'est sûrement le tour du Pays Basque avec un Français qui a gagné aujourd'hui d'ailleurs.
Non, région. Bon, je sais pas.
Bah, c'est peut-être la dernière. Bref, voilà.
Pardonnez-nous.
Samuel Watson, septième ici.
Mais peut-être. Bon, bref.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Il y a une sale embrouille. Bref. Bon, voilà.
Bon, désolé.
Un petit peu pour le tour de l'actualité sportive locale. Est-ce que vous avez d'autres infos locales, les gars?
De l'info locale, il y en a sûrement plein, mais. Si tu veux,
vous avez pas joué, vous?
Si, j'ai joué.
À chaque fois, on parle.
Pas ce week-end, mais j'ai joué mercredi contre la N2 de Avrier. C'était la revanche.
Ah oui, du coup.
Et à l'aller, on avait gagné 35 points, je crois. Là, on a mis que 20 points, mais il nous manquait deux joueurs. Donc voilà, c'était un match sympa dans le but de progresser, évidemment.
Toi, t'as pas joué, Faustin Clément ?
Si, j'ai joué contre le SCA en coupe, en huitième de finale de Coupe de l'Anjou, mais ils étaient beaucoup trop forts et on a perdu 5-2.
T'as pas voulu en parler en entre.
Non. Ce week-end, par contre, il y a le derby face à Beaucouzé, match qu'on attend.
Bah, les derbies, c'est pas face à Avry ?
Non, bah oui, mais Avry, ils sont pas en région, mais...
Oh bah, excuse-nous.
non, mais... voilà.
Au moins, on est bon en basket.
Oui.
Plus trop en hand, je vous cache pas. Peut-être que depuis que je suis parti, mais bon. C'était une autre histoire. Max, oui, tu voulais.
Oui, okay. Alors j'essaie de tirer les ficelles de ce qui.
Moi, c'est bon, je sais.
Donc, je me rends sur le site, hein, Région Pays de la Loire, Tours, donc du 2 au 5 avril 2024. Donc, c'était la première étape aujourd'hui. Marit van der Berg, premier et quatrième. Brian Coquart, en effet, qui arrive en quatrième position.
C'est au classement général.
C'est au classement général.
Les bonus, et bah, Samuel Watson, il a fini quatrième de l'étape, mais il n'est pas quatrième du classement général. Je sais pas pourquoi.
Mais comment ça, il y a eu qu'une étape.
Classement général, il est quatrième, Brian Coquart. Et là,
Merci d'avoir démêlé le vrai du faux.
Bah, classement de l'étape, quatrième.
Et ben voilà. Donc oui, j'avais pas donné.
Ah, je crois savoir pourquoi. Parce que Brian Coquart, il doit être professionnel. Et du coup, il y a peut-être pas.
Un bonus.
Mais je sais pas.
Moi, je vois Brian Coquart qui a fait 4h43 et 22 secondes.
Moi, pour être honnête, donc je vais. Bon, bah, alors, je vais citer mes sources. Mais c'est pas un secret. C'est le site de West France, tout simplement. Qui a couvert l'événement, même en direct et tout. Qui a suivi.
Moi, je suis sur le site de la
course. Oui, exactement.
On va être obligé de s'y rendre.
Qu'est-ce que raconte West France?
Bah, moi, je pense qu'ils sont quand même assez compétents.
Et là, Brian Coquart, 22e.
Oh là là, on n'y comprend plus rien.
Ah, je sais pourquoi. Oula. Brian Coquart, il a eu des bonus à un sprint intermédiaire au milieu de la course. D'accord. Du coup, il a gagné 3 secondes.
Ouais.
Sauf que Samuel Watson, en finissant quatrième, il a gagné 2 secondes. Et ils ont que 1 seconde d'écart. Et donc, Brian Coquart est quatrième au classement général.
Oui, voilà.
C'est un. On essaie de démêler à cassette chinois, c'est incroyable. Alors qu'on parle d'une course de cycliste. Ouais. On rappelle, l'étape était en Vendée, entre Fontenay-le-Comte et Saint-Jean-de-Mont.
Bref, Brian Coquart, quatrième au général.
Ouais, voilà,
c'est général.
C'est ce qu'il faut retenir.
Et il termine. Donc déjà, le concept de la course, c'est quand même particulier.
Voilà, donc déjà, première étape, on comprend rien du tout. Voilà. Vivement les trois.
Mais
autres.
Oui, effectivement, il avait participé, je crois, à celui de l'année dernière, qui était la première édition, il me semble. Voilà pour démêler le vrai du faux sur ce Pays de la Loire Tour qui reste une énigme pour beaucoup. Ça m'a permis, évidemment. Constant, tu l'as vu, toi.
Évidemment.
De préparer la pause musicale. On va tout de suite s'écouter The Weeknd, The Blinding Lights, et on se retrouve juste après.
I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't.
C'était The Weeknd et son titre Blinding Lights. On est de retour sur Radio G 100.5 FM. Vous nous écoutez aussi depuis Internet avec le site www.radio-g.fr ou bien encore sur les plateformes d'AB+. On est de retour donc dans Génération Sport avec Faustin, Clément et Max qui sont avec nous pour maintenant parler de l'actualité sportive nationale et internationale. On a pas mal de choses à dire, donc on va commencer, j'ai envie de dire, sans plus tarder. Avec, on va commencer par le football, on embrayera après sur le débat sur les porte-drapeaux notamment. C'est vrai, je l'ai annoncé en début d'émission, le débat sur...
Oui. Je crois que t'as juste
pardon, dit... oui, j'ai zappé. C'est la petite surprise.
Il y aura... Je crois que t'avais juste dit les JO, mais t'avais pas
dit. Oui, t'avais dit les JO, ouais.
On fera un petit débat autour des porte-drapeaux, qui seront, alors, désignés dans un petit moment maintenant, mais c'est vrai qu'en ce moment, ça fait un peu l'actualité avec pas mal de candidats et de débats autour de ces porte-drapeaux.
Clément. Ça tombe bien parce qu'on avait commencé à en parler la semaine dernière.
Donc. Et bah parfait. Est-ce que t'as réussi à déchiffrer donc ce
oui, oui, c'est bon. Tour c'est du coup ce que je disais, c'est qu'il y a eu un bonus au milieu de la course et du coup il a gagné une seconde de plus par rapport à Samuel oui, Watson.
Ça s'est terminé au sprint.
Oui, et du coup tout le monde a le même temps au sprint et donc grâce à ces 3 secondes de bonus, tandis que Samuel Watson en a eu que 2, bah il est 4e au général. Voilà. Mm.
Parfait, bah merci pour cet éclairage sur le Pilal War Tour.
Événement qui est passionnant.
J'espère que la semaine prochaine.
Il passe sur l'équipe apparemment.
Exactement. Ben oui, bien sûr, ouais. Évidemment. La chaîne de la pétanque et de la fléchette. on va commencer par le foot avec les résultats de la Ligue 1 ce week-end. La victoire de Lille dans le derby du Nord contre Lens 2-1. Monaco qui bat largement Metz 5-2. Match nul entre Lyon et Reims 1-1. Victoire de Brest à Lorient 1-0. Montpellier s'impose sur la pelouse du Havre 2-0. Toulouse enfonce Clermont 3-0. Nantes se relance contre Nice 2-1. Strasbourg l'emporte face à un petit Rennes 2-0 et surtout le match du dimanche soir, ce classico entre ce classique d'ailleurs, c'est ce qu'on dit puisque c'est classique, c'est en France donc on dit classique avec donc cette victoire 2-0 du Paris Saint-Germain qui s'est imposé à 10-11 pendant à peu près une heure de jeu. On a la chance d'avoir quelqu'un qui était présent au stade autour du plateau. C'est toi Max. Oui. On rappelle quand même. Fidèle supporter de l'Olympique de Marseille.
Évidemment.
Et donc, tu as eu la chance de faire ta première expérience au Vélodrome lors d'un classico. Incroyable, j'ai envie de dire. Là, je pense que tu pouvais pas rêver.
C'était un truc de fou.
Raconte-nous un petit peu, déjà l'ambiance autour du, après le match, mais l'ambiance.
Déjà, comment expliquer que, quand tu tombes amoureux du foot, avec l'OM et, attendre ce moment depuis 15 ans de te retrouver au Vélodrome, dans ce qu'on connaît tous et ce qu'on sait tous comme étant la plus belle et la plus chaude ambiance de France, c'est si trouver, c'est incroyable.
Ouais.
En plus, avec le privilège que j'ai la chance d'avoir, c'est-à-dire de regarder ce match depuis les zones presse et d'avoir l'accès au bord pelouse, donc être à côté des joueurs, des légendes du club et de voir
notamment
le match tout en haut.
Jean-Pierre Papin. J'ai une vidéo avec avec Jean-Pierre Papin qui est à littéralement 2 mètres de toi.
Non, mais c'est ça, c'était un truc de fou. On a rencontré
deux
Papin.
Ballons d'or qui se rencontrent.
Oui, ouais, bah, un qui l'a malheureusement pas eu par faute de.
Oui, bon, après,
les croisés.
Bref, les croisés, voilà.
Tu l'aurais mérité.
Mais non, mais ouais, l'ambiance était folle. On a vu Papin. On a vu Basile Boli, Adil Rami, enfin plein d'anciens joueurs de l'OM, c'était fou. Et l'ambiance, effectivement, j'ai pas fait beaucoup de stades en France, mais l'ambiance, c'est
c'est
indescriptible. En fait.
Un soir de classique, c'est
tard. Je pense que c'est l'une des meilleures.
T'as pas vu un Marseille-Metz, sans enfoncer Metz. Voilà,
oui,
là, c'était la rivalité.
En plus, c'était record d'affluence historique du club. Tous les ans, ils battent leur corps, t'as l'impression. Ils avaient mis 200 ou 300 places en plus le club. Donc, il y avait plus de 66 000 personnes dans le stade et c'est assourdissant, en fait.
Ouais.
Quand ça siffle, c'est assourdissant. À la mi-temps, on avait des acouphènes. On avait mal aux oreilles. Et c'était fou. Et après, le match, je pense qu'il y avait 70 000 personnes qui connaissaient le résultat du match. Mais avec la physionomie, Marseille aurait dû gagner. Et Marseille, encore une fois, a fait n'importe
donc,
quoi.
Donc, pour rappeler un peu les faits de jeu, à la 40e minute à peu près, il y a ce ballon dans la profondeur pour Aubameyang qui part un peu seul, mais à la lutte avec Lucas Beraldo, qui avait déjà pris un jaune, et qui, du coup, le déstabilise, qui lui met quand même un coup d'épaule, et qui est à ce moment-là quand même visuellement en position de dernier défenseur. Et là, l'arbitre qui pourrait simplement lui remettre un jaune et l'exclure, je crois qu'au début, donc, il siffle seulement faute.
Il siffle et il met un jaune à Lucas Hernandez.
Oui, alors oui.
Oh, je peux te jurer qu'il y a 66 000 personnes qui ont insulté l'arbitre.
Il se trompe de Lucas, déjà.
Ça n'avait aucun sens.
Et donc, après, il est rappelé par la VAR pour que, pour aller voir. Sauf que, comme tu me le disais aussi, en off, c'est que, à ce moment-là, l'arbitre, quand il est appelé par la VAR, il ne peut que faire soit annuler,
Il peut pas mettre de jaune, en fait.
En fait, c'est soit rouge, soit rien.
Ouais.
Mais en fait, c'est rouge direct, d'ailleurs.
Ce qui était fou, c'est que, donc, Beraldo, il avait un jaune avant cette faute.
C'est ça.
Et donc là, tu te dis, deuxième jaune, carton rouge, expulsion. Et quand on voit l'arbitre mettre un jaune à Hernandez, tout le monde est, enfin, comme des oufs, tout dans le stade, parce qu'on comprend pas. Et l'adjoint était à côté de la faute. L'adjoint ne dit rien, ne bouge pas. Donc, personne ne comprend ce qui se passe. Donc après, il va voir la vidéo et il lui met rouge. Et en effet, en fait, il peut pas aller voir la VAR et ensuite mettre un carton jaune. Soit il met rien.
C'est ça.
Soit il annule la faute, soit c'est ça.
On rappelle que la VAR, c'est que pour
les graves fautes manquées, quoi.
Alors c'est ça, donc c'est carton rouge seulement, penalty
hors jeu
et but hors jeu.
Ouais, voilà.
C'est-à-dire qu'on peut pas revenir sur une simple faute, une simple touche mal faite, des choses comme ça.
Mais quoi qu'il arrive, l'expulsion est méritée parce que l'autre jaune, selon moi, aurait été mérité.
Oui, ouais.
Dernier défenseur ou non, il déstabilise.
Il y a eu pas mal de polémiques sur par rapport à cette décision. Vous êtes d'accord sur le fait qu'il méritait rouge?
Oui.
Ouais.
Oui,
pareil, Clément.
Bon, de toute façon, oui. Ou alors, il prenait un deuxième jaune, il prenait rouge. Donc, au final, la finalité, elle est un peu pareille. Juste que, je pense qu'il va prendre plus de matchs de suspension, juste. D'avoir pris rouge directement. C'est après un ou deux matchs de plus, je pense.
Et du coup, sur le match, donc, il y a eu ce but, de Vitinha.
Vitinha et Ramos.
Donc, les deux Portugais qui ont marqué. À ce moment, but refusé de Verretou.
Ouais.
Et l'arbitre qui n'est pas appelé par la VAR parce qu'il y avait donc Luis Enrique, non pas le coach du Paris Saint-Germain, mais plutôt le joueur brésilien de l'OM qui fait action de jeu sur l'action.
Mais on sait même pas en
et
fait
là,
parce
ça
que
ça porte à confusion.
Il y en a qui te disent que Enrique fait action de jeu et d'autres qui te disent qu'il est hors jeu parce qu'il est techniquement derrière Donnarumma.
Oui.
Sauf que il gêne. Bah après c'est un avis de supporter qu'a les nerfs. Luis Enrique est à côté de Donnarumma, donc en fait le ballon n'est pas sur la trajectoire d'Enrique. Mais l'autre hypothèse est aussi bizarre parce que Donnarumma, le gant de Donnarumma est derrière Luis Enrique. Ouais. Et quoi qu'il arrive, c'est fou que l'arbitre n'ait pas été appelé par la VAR parce que Verretou tire et Lucas Hernandez contre le ballon vers son but.
Ouais.
Donc quoi qu'il arrive, tu te poses la question, est-ce que le hors-jeu est légitime? Et quand tu vois que l'arbitre va voir la VAR pour Beraldo, ce qu'on parlait tout à l'heure, et que là il va pas la voir alors que le moment il est crucial, je pense que si Marseille marque, il y a un partout et derrière il y a tout le Vélodrome qui pousse et ça peut vraiment changer les choses. Et l'arbitre en 10 secondes c'était réglé quoi.
Ouais,
et c'était fou. C'était complètement fou.
Et donc voilà ce résultat quand même un peu frustrant pour Marseille. Par rapport donc à
22 tirs quand même.
22 tirs à Marseille, donc
22 tirs, on
pas
démérité.
Hein.
Non, mais il y a que des peintres en bâtiment devant.
Bah oui.
celui qui a le plus de finition, c'était Verretou. Il tape le poteau en première mi-temps. Là, il y a un but
Ndiaye,
refusé.
Ndiaye,
il fait tout devant. Ils font tous un mauvais match. Luis Enrique, il fait n'importe quoi. Unai, il fait une entrée, il a un ballon. Et à l'image de la saison d'Unai, il décide d'être perso, de frapper. Il frappe, c'est contré, derrière contre et 2-0.
Ouais. Les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé rapidement, si vous avez pu.
J'ai juste vu le résumé, j'ai pas forcément vu les actions des attaquants, mais je pense que Aubameyang aussi a pas été, enfin il était mieux ces dernières semaines, enfin peut-être un peu moins bien la semaine dernière et deux semaines avant, mais il a quand même fait des bonnes prestations en Europa League dans des matchs importants et là de pas le voir à l'œuvre à part sur le carton rouge, c'est un peu décevant. J'espère que maintenant ils vont se ressaisir parce qu'il y a quand même un match important la semaine prochaine. Enfin la semaine prochaine. La semaine prochaine.
Et cette semaine
contre Lille, ouais. C'est ça. Vendredi.
Ça joue Benfica.
Je parlais de Benfica.
Ah, Benfica,
moi.
Évidemment.
Ah, c'est jeudi soir là.
Ouais, je crois.
Jeudi soir. Non. Jeudi en 8.
Oui.
Parce que là, c'est la Coupe de France cette semaine.
Oui. Je suis perdu moi. Mais la semaine prochaine.
Oui, c'est ça, la semaine prochaine.
Et vendredi, il y a donc ce match contre Lille qui va être important.
C'est important.
Et
ils sont quand même septième.
Septième, je pense qu'il y a une lutte maintenant, même si Lens a aussi perdu ce week-end. Il y a une lutte pour cette septième place qui peut être qualificative pour une Conference League
pour
en cas de
sixième place.
En cas de victoire du Paris Saint-Germain notamment, la septième place elle est qualificative pour la Conference League.
C'est la sixième.
PSG notamment, avec notamment aussi Rennes qui est égalité de points. Et il me semble Reims qui est pas très loin et Lyon qui est un petit peu en
bah, ils sont tous à 4 points. Ils sont tous à égalité.
C'est ça, donc Reims et Marseille ouais. Et Lyon à 4 points derrière.
À noter que c'était la première défaite de la saison de l'OM au Vélodrome.
Oui, c'est vrai.
Toute compétition confondue.
C'est quand vrai, même c'est remarquable. Hein.
Remarquable, mais les joueurs, enfin, ils étaient tous cramés, quoi.
C'est ça.
Je sais pas comment ils vont aller au bout de cette saison. Hein.
Ouais, tu penses?
Bah, je pense que l'OM va se qualifier pour l'Europa League, mais pas plus.
Pas plus.
Ah non, devant Brest, ils vont jamais s'effondrer.
Ouais, Brest en Ligue.
Brest, ils sont hyper costauds et je pense que ça va durer jusqu'à la fin de saison. Et ouais. Marseille, ouais, derrière, il y a du monde, comme vous avez dit, donc je suis pas très optimiste.
Très bien. Même pas en Ligue Europa. Un petit parcours.
Ouais,
à
si, peut-être un Ligue Europa. Ah, et Benfica, c'est pas un bon. Enfin, il y a pas de bon tirage. Benfica, ils sont très contents de taper l'OM aussi. Hein. Ils sont
c'est plus Liverpool contents après. Hein. C'est Liverpool.
Ah, par contre, oui, c'est Liverpool. Moins, ce que je veux dire, c'est qu'une belle épopée, quoi.
Oui. Bah, non, mais ce qui serait fou, ce serait de, en effet, tomber sur Liverpool en demi et.
Ah,
ce serait.
Bah, c'est sûr.
Au moins, en termes d'ambiance, ce serait deux ambiances exceptionnelles à l'aller au retour.
Pour revenir, on a parlé un peu de Marseille, pour revenir sur le Paris Saint-Germain, à noter donc que le PSG joue sa demi-finale de Coupe de France, donc demain à domicile contre Rennes. On va parler un petit peu de Lyon-Valenciennes qui arrive juste après. Avant ça, rapidement, on reviendra plus globalement hein, là-dessus la semaine prochaine, puisque ce sera le début des quarts de finale de la Ligue des Champions. Comment vous sentez cette affiche entre le PSG et le Barça? Qu'est-ce que vous voyez plutôt se qualifier très rapidement? Faustin. Je crois que t'es affiché.
Il a un choix de cœur, lui.
T'es là au Granada, je crois.
Et il me semble, en effet. Donc, j'irai sur le Barça, en plus. Ce serait beau, Luis Enrique, qui était coach pendant la remontada pour le Barça, qui s'en prenne.
Ok, le cœur te dit le Barça, mais la raison, elle te dit quoi?
Ah, la raison me dit le Barça aussi.
Ok,
hein,
d'accord. Pourquoi pas. Clément, toi, tu penses PSG ou Barça?
PSG, on est pour les équipes françaises quand même, même si peut-être tu as le cœur au Barça, je prends ça comme une trahison, Faustin.
Ah d'accord, carrément. Max,
mais Paris, on a parlé de Marseille, mais Paris a pas fait un bon match, a pas fait un gros match ce dimanche. Ça fait quelques matchs que Paris ils sont pas ouf, donc je mettrais quand même une pièce sur Paris parce que je pense que je regarde pas énormément le Barça, mais pareil, c'est pas un très très grand Barça cette saison.
Mais attention,
le Barça n'a pas perdu en Liga depuis janvier.
Ouais, mais
wow.
Tiens à le dire.
Mbappé, tu vois, se fait il est sorti d'ailleurs, on l'a pas dit, mais ouais, il est sorti ouais. À l'heure de jeu.
Il y a eu cette
et il est rentré dans les vestiaires et je crois même
avec
qu'il
Dembélé.
Est et je crois même qu'il a quitté le stade avant tout le monde parce qu'à la fin on a vu tous les joueurs, on a vu toute la famille de Mbappé, lui n'était pas là. Donc je pense qu'il était rentré sur Paris avant la fin du match.
Son post Instagram, enfin, bref.
Je pense qu'il est.
C'est lunaire.
Est-ce que.
Et puis, d'ailleurs, c'est l'équipe qui a sorti ça, qui a dit que l'entourage considérait cette sortie comme un manque de respect de la part de Luis Enrique.
Ah bah oui.
On va pas revenir là-dessus, mais.
Non, mais. Un entraîneur du PSG qui a.
Merci, Max.
Qui ose sortir. Parce que Mbappé fait un mauvais match. Et si c'était n'importe quel joueur, il serait sorti dès le début. Donc. Mais quand même une pièce sur Paris, mais ça va être très compliqué, je pense.
Ouais. Bon. Moi, je dirais pareil Paris, mais ce sera peut-être un peu plus serré que ce qu'on croit. Pour revenir sur la Coupe de France, donc ça va commencer très bientôt. Dans 4 minutes, c'est le début du match entre Lyon et Valenciennes. Lyon qui peut retrouver une finale de Coupe de France depuis très longtemps, avec donc cette opposition qui les oppose au VAFC. Pour la compo lyonnaise, rapidement, ce sera Lucas Perry dans les buts. Une défense à 4, Mata O'Brien, Keita Char, Tagliafico. Au milieu, Matic Kakré Mangala. Une attaque, Nuama Benrahma, Lacazette. Du côté de Valenciennes, on va retrouver notamment l'ancien joueur de Leicester, Knokert, notamment. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est lui dans la fameuse vidéo avec Troy Deeney, qui est très connu.
Il joue où, lui?
Il joue à Valenciennes, là, actuellement.
Knokert. Incroyable.
Tu vois,
il est champion d'Angleterre avec.
Ah oui, voilà, c'est avec Leicester, merci.
Mais c'est fou.
Et voilà.
Ah, ok.
Il joue avec Valenciennes. C'est
un français, un milieu, un ailier droit ou un truc comme ça.
C'est à peu près le seul joueur connu. On va pas se mentir du côté de Valenciennes. Sinon, c'est un petit peu plus compliqué.
Leicester ou Brighton?
C'est Leicester.
Bah, c'est l'équipe de Kanté, de.
Anthony Knokert.
Je suis sûr qu'il a joué à Brighton, mais Leicester, je me rappelle pas.
Il a joué à Brighton, tu as raison. Et il a joué à Leicester, mais il est pas champion.
Voilà, il arrive à Leicester juste après.
Non, parce qu'en fait, il y a une vidéo un peu, comme je disais, un peu iconique, où il y a un play-off contre Watford. c'est lui qui rate son penalty qui est décisif, machin, et sur le contre du penalty, il y a but de Watford.
Oui. Ah oui, ok, celui-là. Dani, comme ça, il...
C'est ça, ouais, ouais. C'est exceptionnel.
Voilà. Ah ok, c'est lui qui tire le penalty. Sacré palmarès, du coup, t'es ancienne.
Exactement. Incroyable. C'est à peu près, voilà, le seul joueur de renom, on va dire, dans le but de Marseille, avec tout le respect qu'on...
Si ça se trouve, c'est même pas
lui. Et Lyon est capable de perdre, je vous le rappelle.
Ça se trouve, c'est pas le même gars.
Lyon est capable...
Non,
de perdre. Non. Ils sont capables.
Non. Non, en finale.
Après, on verra. Ouais, voilà.
Lyon, je pense que même Lyon va aller chercher le titre. Il y a donc que ça à jouer cette saison. Derrière, il y a Paris ou Rennes, je crois.
Ouais.
J'ai plus peur de Rennes que de Paris, parce que Paris, ils ont l'air déconnectés. Ouais. Paris va jouer la Ligue des Champions.
Ouais, clairement.
Après, c'est le talent qui va parler côté Paris, comme d'habitude.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Paris est quand même meilleur que Lyon, même
oui,
si...
Oui, mais Lyon, ils vont tout donner. En Coupe de France, c'est pas
c'est
mal du tout.
C'est leur seul objectif, notamment.
C'est le seul objectif. Donc,
c'est le seul moyen d'avoir l'Europe.
Ce soir, ça va gagner. On verra au Stade de France plus tard.
Ouais. On verra bien.
On en reparlera. Peut-être la semaine prochaine.
On va rapidement avancer avec le basket. Faustin, tu veux nous parler de NBA, mais également de la March Madness.
Exactement, le championnat universitaire qui touche à sa fin, parce qu'on connaît les quatre équipes qualifiées pour le Final Four. Final Four qui démarrera le 6 avril et prendra fin le 8. La première équipe, c'est l'équipe de UConn, les champions en titre, qui sont en bonne voie pour aller chercher un back-to-back. La deuxième équipe, c'est l'université d'Alabama, tête de série numéro 4 de la division Sud-Est. La troisième, l'université de Purdue. Enfin, super accent, évidemment. C'est pas facile à prononcer, j'ai pas su le faire. Bref, un des favoris, là aussi, tête de série numéro 1. Et enfin, la dernière équipe, c'est la surprise de championnat, c'est l'équipe de Caroline du Nord, NC State, tête de série numéro 11 de la division Nord-Est, et équipe dans laquelle le jeune français Mohamed Diarra évolue. C'est le seul français qui reste en lice dans ce Final Four qui, je le rappelle, prendra donc ses débuts le 6 avril et finira le 8 pour savoir le nouveau champion de NCAA. En NBA, c'est aussi un jeune qui a brillé récemment, c'est évidemment Victor Wembanyama qui, contre les Knicks, a sorti une perf incroyable. Alors, petit salut à Jalen Brunson qui était en feu, qui a mis 61 points dans ce match. Mais le Français en a planté 40 et a pris 20 rebonds pour offrir la victoire à son équipe en prolongation. En plus de ça, il a une fois de plus été très clutch avec un énorme 3 points pour finir le match. Il a cependant écopé d'une amende de $25,000 pour avoir lancé le ballon dans le public à la fin du match. C'est pas grand chose, j'ai envie de dire.
L'image est assez drôle quand même, ouais, parce qu'il y a un joueur de New York qui veut lui prendre la balle et puis il la jette dans le public.
Ah, ça aurait dû être le ballon de Jalen Brunson, ouais, qui met ses 61 points, record en carré, etc. Et Wemby qui le balance dans les tribunes. Il prend $25,000 d'amende. Bon, ça va. Il n'a un peu rien à faire, à mon avis.
Une petite entorse sur le salaire.
Voilà, exactement.
Voilà pour l'actualité des baskets, ou est-ce que t'as autre chose?
Je peux vous parler encore un peu de la fin de saison, parce qu'il reste moins de 10 matchs avant la fin de la saison. Et surtout à l'ouest, on va avoir une super bataille jusqu'au bout des 82 matchs, que ce soit pour la première place où le Thunder, les Nuggets et les Wolves ne sont qu'à une victoire d'écart. Pour l'ascension directe au play-off, où il n'y a que 3 victoires d'écart entre les Suns 7e et les Clippers 4e. Même chose pour le play-in, où les Rockets, qui sont sur un run exceptionnel de 11 victoires d'affilée, pour tenter de décrocher la place des Warriors pour le play-in, car il n'y a plus que 2 longueurs d'écart entre les deux équipes. Ça va aussi être très serré entre les Kings et les Lakers, qui n'ont qu'une victoire de différence pour la 8e et 9e place. Et je vous l'annonce aussi officiellement, ici, c'est fini pour les Raptors, qui n'accéderont pas au play-in. Mais il faut remarquer leur magnifique tanking de fin de saison avec 13 défaites d'affilée pour s'assurer le meilleur choix de draft, en assurant la place la plus basse à la fin de cette saison régulière. Oui. C'est beau.
Ils vont peut-être battre les Lakers, les Spurs ils ont fait combien?
Oh, les Spurs, ouais. c'est beaucoup de défaites.
C'était les Pistons qui avaient fait 19 cette saison.
Ah oui.
Mais non, il reste que 8 matchs. Donc,
déjà,
faut 7 défaites. Mais c'est ce qu'on appelle du tanking, Clément. C'est, ils font exprès de perdre, tu vois.
Oui,
c'est
pas, oui, mais c'est ça, pas fait quand même, ça fait quand même 20 défaites de suite, quoi, si jamais.
C'est pas parce qu'ils sont mauvais qu'ils perdent, c'est parce qu'ils font exprès.
Non, mais je sais.
Mais,
c'est pour te chambrer.
Mais voilà.
Voilà.
Donc, j'espère voir de mon côté Tijan Salone rejoindre.
Pourquoi pas?
Rejoindre les Raptors.
Pour te redonner le sourire. Exactement. Du côté du basket. merci Faustin pour cette page basket. Rapidement, Clément, les résultats du top 14 qui ont les enseignements de ce week-end ouais. En championnat de France.
Oui, bah c'est le Stade français qui fait la bonne opération en allant s'imposer 12-10 sur le fil face à Montpellier. Le Stade français qui garde cette première place avec Toulouse qui arrive maintenant très fort depuis la reprise des internationaux. Bah, Toulouse revient en force et ils ont encore gagné 31-29 ce week-end. Ils sont à, je crois, 3 points du Stade français. Donc la première place va se jouer entre les deux, mais bon. Il y a aussi des play-offs, enfin, c'est pas comme ça qu'ils appellent ça au rugby, mais.
Les
barrages d'accession, c'est ça. Et le top 5 est constitué du Stade français, de Toulouse, ensuite le Racing 92, Toulon et La Rochelle. Ça va se bagarrer pour la troisième place parce qu'on a le Racing 92, Toulon et La Rochelle qui sont à un point d'écart. Donc
tout reste à faire.
Voilà, c'est ça. Il reste 5 matchs, donc affaire à suivre.
Affaire à suivre. Deux autres petites infos, notamment concernant le cyclisme et le judo. En cyclisme, c'est Mathieu Van Der Poel qui s'est imposé à l'occasion du Tour des Flandres 2024, son troisième succès sur la classique belge après 2020 et 2022. Le Néerlandais, petit-fils de Raymond Poulidor, on le rappelle, est parti en solitaire à 44 km de l'arrivée et ne fut jamais rejoint par ses concurrents. Il succède ainsi à Tadej Pogacar, vainqueur en 2023 et absent cette année. En judo, une semaine après celui de Tbilissi en Géorgie, le Grand Slam arrivait à Antalya en Turquie avec de gros enjeux pour nos judokas et judokates françaises. Chez les femmes, Madeleine Malonga en concurrence avec Audrey Tchemeo pour une place au jeu dans la catégorie des moins de 78 kilos a pris l'ascendant sur sa compatriote en l'emportant lors de son tournoi en Turquie. Chez les hommes, tandis que Lucas Mkez décrochait l'argent chez les moins de 60 kilos, Teddy Riner a marqué sa réapparition sur le tatami par un succès qui le rassure à quelques mois de ces derniers Jeux Olympiques. En parlant de Jeux Olympiques, ça va nous mener au débat du jour. Qui pour porter les drapeaux, puisqu'il y aura deux porte-drapeaux français, un masculin et une féminine. Il y a pas mal de noms pour un petit peu expliquer la situation. On rappelle les critères de sélection. Pour ce drapeau ne peuvent pas être éligibles ceux qui ont déjà été porte-drapeau, notamment donc Teddy Riner, Clarisse Agbenianou en 2021 et Samir Aït-Saïd, le gymnaste, en 2021. Également ceux qui n'ont jamais encore participé aux Jeux Olympiques. Donc par exemple les stars comme Antoine Dupont ou Wembanyama, potentiellement Mbappé à une époque, ou même encore les étoiles montantes comme Félix Lebrun en tise de table, ça n'est pas possible. Et puis également, c'est un peu plus compliqué pour ceux qui vont rentrer tôt dans la compétition, puisqu'on rappelle c'est le vendredi soir, et que ceux qui jouent très tôt le lendemain peuvent pas forcément participer. On pense notamment à Gaël Monfils au niveau du tennis, ou d'autres tennisman, notamment aussi à Pauline Ferrand-Prévot qui aura une épreuve très rapidement dans l'Olympiade. Parmi les noms évoqués, vous me dites ce que vous en pensez. Alors, vous me donnerez un peu, ceux que vous préférez. On a Nicolas Karabatic, carrière impressionnante, qui va donc s'arrêter après ces fameux Jeux Olympiques. On a notamment du Kevin Mayer. On a du Renaud Lavillenie qui avait été apparemment, donc il s'était confié à l'équipe, il a été très très déçu en 2021 de ne pas avoir été porte-drapeau. Florent Manaudou qui peut également éligible, qui a été champion olympique en 2016 ou 12.
16.
Ouais. Pardon.
Ouais, 2012 aussi.
Sinon, on a les basketteurs, on pourrait avoir Evan Fournier, Nicolas Batum, ce genre de athlète, Rudy Gobert. On a également aussi le volley avec Irving Gapet. Enfin, voilà, vous voyez un peu que c'est large. Et puis, au niveau des femmes, on a notamment Mélina Robert-Michon qui est évoquée, Wendy Renard aussi, puis les judokates comme Romane Dico, puis voilà, un petit peu, voilà, les emballeuses. Bon, voilà. Il y a pas mal de choses. Sur qui vous préférez? Alors, certains vont trouver le débat un peu.
Bah, déjà, ça fait pas rêver.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Wow. C'est comme ça.
On a que des vieux.
C'est le symbole.
Oui, non, mais ouais, bon. Mais, c'est des vieux, c'est vraiment la fin de carrière, quoi.
Je pense pas que.
C'est souvent ça.
Je pense pas que pour ces JO de Paris, on va prendre des porte-drapeaux qui seront des personnes qui vont faire leurs dernières Olympiades. Je pense qu'on va prendre des jeunes.
Ah ouais, tu penses?
Ah ouais, pour l'image. De toute façon, ces jeux, c'est que pour l'image. Hein. C'est uniquement que pour l'image. Donc
que pour les caméras.
On va prendre les sports qui sont avec le plus de visibilité à l'international. Et on va prendre des jeunes, je pense.
C'est ton avis?
Je pense. Karabatic, je pense qu'aux États-Unis, personne ne sait qui c'est. Au Brésil, personne ne sait qui c'est, tu vois.
Karabatic, il me semble qu'il y a aussi un truc dans les critères, c'est avoir un casier judiciaire vierge.
C'est mort.
L'équipe a regardé ça.
Ils ont annulé le casier. Voilà. Ils ont blanchi.
Non, mais en vrai, ça n'est pas pris en compte. C'est des casiers judiciaires graves.
Ok.
Là, ça concerne les paris sportifs. Bon. Donc, c'est pas.
Ça va.
Il n'a tué personne.
C'est rien.
Merde. qui pète un câble en plein. Non, mais voilà.
Yann de l'émission générique nous envoie un message, nous dit Emmanuel Macron porte-drapeau. Bah, je pense qu'il aimerait bien. Il aimerait beaucoup être lui-même.
Allumer la flamme également. Voilà. Enfin, voilà, faire les épreuves. Enfin, bref.
Mais le plus probable. C'est dur.
Non, votre avis, enfin, lequel vous choisiriez? Est-ce que vous avez des idées?
Bah, chez les femmes, j'allais dire Pauline Ferrand-Prévot, mais tu m'as coupé l'herbe sur le pied. Et donc, je dirais bien Loana Lecomte, mais je suis pas sûr qu'elle a déjà fait des JO. Elle fait du VTT, pareil. Donc,
Mais elle avait pas terminé en médaille d'argent l'année dernière? Vice-championne du monde.
Oui, vice-championne du monde. Ouais, derrière Pauline Ferrand-Prévot.
Du coup, pas encore les Olympiques. Donc, ça risque d'être, il faut que tu réfléchisses. Ouais. Faustin, est-ce que tu as envie de dire un basketteur, une basketteuse?
Bah, si je
Sandrine
devais choisir,
qui s'est proposé.
Si je devais choisir un basketteur, j'aurais dit Nicolas Batum.
Ouais.
Parmi l'équipe de France, mais pareil, ça reste un vieux, j'ai envie de dire, ce sera sûrement ses derniers JO et tout. Sinon, si on veut mettre de la jeunesse, bah, plus Rudy Gobert. Comme ça, on verra bien le drapeau français tout en haut, en plus.
Oui.
Et,
pas tout devant, après, on est devant la scène, donc.
Je disais tout en haut parce qu'il est grand.
Ah oui. Pardon, j'en dis tout devant, c'est pas bon. Mais oui, on rappelle que cette cérémonie aura lieu sur la scène. Ça risque d'être sympathique. Ouais. On va bien se parler parce qu'apparemment, il n'y a pas de plan B.
Ouais,
ça va être on en a déjà parlé plein de fois dans l'émission de cette cérémonie d'ouverture.
Et tu évoquais Kevin Mayer, mais on en a parlé la semaine dernière et je pense que ça va être compliqué puisque il avait tenté de réaliser les minima il y a maintenant 2 semaines. Ouais. Et il a déclaré forfait, donc je pense que ça va être compliqué rien que pour Kevin Mayer d'aller au JO. Donc je pense que Florent Manoudou, c'est l'un des... Enfin, même s'il est aussi vieux du coup, mais je vois pas d'autres hommes en tout cas. Et après, chez les femmes, Pauline Ferrand-Prévot, c'était une bonne concurrente. Mais bah oui, parce que elle représente vraiment le VTT mondial, parce qu'elle est quand même... elle a gagné des titres pas que en VTT en plus, donc c'est dommage que elle ait des épreuves assez tôt. Après aussi, je pense à Eugénie Le Sommer peut-être qui peut représenter l'équipe de France.
Pourquoi pas.
Ouais, je sais pas.
Après est-ce qu'ils vont mettre Eugénie Le Sommer sachant qu'elle est la capitaine de l'équipe de France.
Moi un des deux qui sera d'un sport collectif.
Moi, je vois pas dans quel monde. Enfin là, la liste des porte-drapeaux français, elle fait pas rêver. Ouais. Et en fait, je vois pas dans quel monde. Mbappé ne va pas au jeu. Et pour moi, si Mbappé va au jeu, il est automatiquement porte-drapeau.
Mais c'est impossible, je viens de te le dire.
Mais si, tout est possible. mais tout est possible.
Sinon, Léon Marchand, il serait porte-drapeau direct.
Voilà.
Ouais. Mais pourquoi Mbappé ne peut pas y être? J'ai pas.
Parce que
il n'est pas passé.
Ça se voit que tu écoutes, ça fait plaisir.
Il n'écoute pas.
On perd du temps, Alex.
C'est parce que, ils peuvent pas être porte-drapeau ceux qui n'ont jamais participé aux Jeux Olympiques. Donc, ça, comme je disais, ça concerne Wembanyama, ça concerne Antoine Dupont,
Léon Marchand, les frères Lebrun, tout ça.
Que là où tu parlais de symbolique, et je pense que de toute façon, je l'ai pas dit, mais ce sont les athlètes de toutes les fédérations qui sont impliquées dans les Jeux Olympiques qui vont voter. Ils ont deux trois mois pour déposer une candidature. Ensuite, il y a 2-3 jours de vote. Voilà, avec seulement les athlètes qui votent. D'accord. Avant, il y avait 2 ambassadeurs de fédération. Enfin bref, je vous la fais courte. Et donc, on le saura à peu près au début juillet qui sera porte-drapeau. Donc, ce sera dans longtemps. Mais voilà. Moi, je suis plus d'avis d'avoir justement des gens qui ont marqué leur discipline en France. Mm-hmm. Je suis plus Karabatic, évidemment, c'est mon père qui parle. Et effectivement, moi, je trouve que Bélina Robert Michon, qui a commencé à Athènes en 2004, je trouve ça beau symboliquement.
Pour le symbole,
oui, c'est vrai.
Voilà. Après, je pense, par contre, du coup, comme je te disais, pour le symbole, je pense qu'ils s'attacheront plus sur la cérémonie à qui va allumer la flamme. Et là, peut-être que Mbappé pourra.
Oui, oui, en effet.
Allumer la flamme. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être, je sais pas, Marie-Josée Pérec, qui s'est aussi prononcée pour ça. Ça peut être, je sais pas, Platini.
Emmanuel Macron.
Ils vont certainement mettre un homme et une femme avec la torche pour allumer.
Oui.
Peut-être.
Ou un athlète de handisport.
Bah après, peut-être. Il y a une autre cérémonie différente.
Oui, mais pour l'image.
Je ne sais pas, Max. Écoute, je ne suis pas à la place de
ce stand-up. Ils sont prêts à faire ressusciter, je ne sais qui, Chirac, peut-être.
C'est tout. Jamais. C'est lui qui libère. Waouh.
Bon, voilà. Mbappé sera pas. On va clôturer.
On va clôturer cette émission sur ce petit dérapage. Oh. Non, c'est pas méchant. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission de Génération Sport. Merci Faustin, merci Clément, merci Max d'avoir fait ton petit retour bref, mais intense dans cette émission.
Avec plaisir.
On va vous laisser avec la suite des programmes. Tout de suite, c'est Imaginaire qui nous suit juste après. Et puis nous, on se dit à mardi prochain pour une nouvelle émission de Génération Sport.
Et allez l'OL.